Amar Rabbi Abaou, Machal, le Melech, Bassar Vadam, Molech, un roi qui règne. Alors, il règne, c'est vrai qu'il est le roi, mais bien qu'il soit roi, Yeshlo Av, Oach, Oben. Mais ce roi, il peut avoir un frère, il peut avoir un père, il peut avoir un fils. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani Eniken. Moi, chez moi, c'est pas comme ça. Ani Rishon. Je suis premier. C'est-à-dire, il n'y a pas de Av. Je ne détiens pas mon pouvoir d'un père qui me l'aurait confié, qui me l'aurait donné. Vani Acharon, et je suis aussi le dernier, c'est-à-dire Enli Ach, ou Mibaladai, Ein Elohim, chez Enli Ben. Et hors de moi, il n'y a personne qui soit une divinité, parce que je n'ai pas de fils. Je suis le dernier, il n'y a pas de successeur, il n'y a pas, je ne vais pas abandonner le pouvoir à quelqu'un d'autre, que ce soit un frère ou un fils. Je n'ai pas ça. Bon, c'est sûr que ça a un parfum antichrétien, quoi. Je n'ai pas de fils et on entend bien à qui c'est destiné. C'est-à-dire que dans la royauté divine aussi, il n'y a que lui. On aurait pu imaginer que Hachem, il est Echad, mais des Elohim, il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait avoir un fils, un frère, etc. Toute une cour de familles, quoi, des familles parentes et alliées, etc. C'est-à-dire toute la tout ce qu'il y a dans le christianisme. Il n'y a pas de père parce qu'ils ont tué le père, mais il y a la mère et il y a le fils, quoi. N'y a pas de père parce qu'il joue pas de rôle. Tandis que, de toute manière, il n'y a pas de père parce que c'est un mamzer, mais bon. En tout cas, c'est sûr qu'il y a ici une connotation chrétienne. D'abord, autre chose, mais probablement dans le même style, en fait, qui vient compléter là. Anochi Hashem Elokecha, Adahu Dirtiv. C'est comme ça qu'il faut entendre un verset qui est dans Yeshaya, qui est dans le Navi. Yeshaya, Anochi higadti veoshati vishmati. Anochi higadti, j'ai raconté, j'ai sauvé, j'ai donné à entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Higadti, j'ai raconté le Mitzrayim. Cheverachtem, kedeshi ishmeu veirdufu acharechem, veitbeu bayam, shenemar vayugad, le melech Mitzrayim, kivaracham, veoshati etchem, et je vous ai sauvé, shenemar vayosha Hashem bayomahu et Israël, ce jour-là Hashem a sauvé le clan Israël. Vishmati le Ovde Kochavim, donné à entendre au Goïm. Shamo Amim, les peuples ont entendu le matin de Torah et Yetzias Mitzrayim, etc. Irgazun, ils ont été en colère en fait, ils ont été complètement troublés. Ve'en bachem zar, shenemar va'ishlach Moshe et chotno, miyad, bachodesh ha'shlishi, va'atem edai, En bachem zar, il n'y a pas chez vous, littéralement, d'étrangers. En fait, ça veut dire, à Matan Torah, il n'y avait personne d'étranger. Parce que même Yitro, lo zacha liyot imahem. Même Yitro, le beau-père de Moshe, qui par la suite va se convertir, mais à Matan Torah, il n'y avait pas d'étranger. Il n'y avait personne de nouveau, en quelque sorte. Vavshayu et Revrav Imahem. Ah, mais comment on se débrouille? Il y avait les Revrav avec eux. Chashivezar, l'eau Chashivezar. Les Revrav, ils ne sont pas considérés comme des étrangers. Parce qu'ils se sont déjà convertis, ils sont considérés comme des bnei Israël. Par Yitro, mais Yitro s'était pas encore converti, donc il ne pouvait pas être là. Chez Neymar, comme on le voit, Moshe a renvoyé, il a envoyé Beyalkut, Beshematan Amar Kadosh Baruch Hu, Banai Hayu Meshubadim Betit, Ulvenim. Mes enfants, ils étaient asservis à cause de. Qu'est-ce qui se passe? Il est entré? Non, il n'est pas encore entré. On va le faire entrer. Voilà. Ils ont été asservis avec la glaise, avec le ciment avec lequel ils ont fait des briques. Alors que Yitro, il était dans sa maison, en sécurité, tranquille, et il est venu voir Besimchat Torah im Banai, et il est venu voir dans la Simchat Torah, il est venu pour les réjouissances consécutives. Le Fichar va Ishlach Moshe et Chotno, Bachodesh. Lev Yodea, Marat Un passage qui dit que, effectivement, dans la joie, ne vient pas se mêler un étranger qui n'a pas participé aux souffrances. Donc c'est. Tout ça, c'est, comme vous savez, il y a une discussion pour savoir quand Yitro est arrivé. Ce midrash-là, il pense que Yitro est arrivé après Matan Torah. Entre parenthèses, ça veut dire que, étant donné que la femme de Moshe et les enfants de Moshe sont venus avec Yitro, ça veut dire que la femme de Moshe Rabbeinu et les enfants de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas ni dans Yetziat Mitzrayim, ni dans le passage de la mer, ni même à Matan Torah. C'est un prix, d'une certaine manière, que Moshe Rabbeinu a payé. Sa femme et ses enfants n'étaient pas à Matan Torah. On dit, Yitro n'y était pas, mais. OK, Yitro n'y était pas, mais sa femme et ses enfants non plus. Que, puisque au moment de Matan Torah, il y a eu un guiour collectif, il y a eu une conversion de tout le peuple. Il y a eu, ils avaient fait la Mila en sortant d'Égypte, et après, il y a eu, on a dit, il y a eu Tvila et Korbanot, etc., pour tout le clan d'Israël. Mais les premiers à faire une conversion individuelle, en quelque sorte, c'est Tsipora et les enfants de Moshe. C'est tout à fait paradoxal, j'entends de. Lui, il a sauvé tout le clan d'Israël et ses propres enfants, sa femme et ses propres enfants n'en sont pas, quoi. Ils n'ont pas le même statut que tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça vient dire ici? On avait parlé du fait que Hachem n'a pas de famille, si on peut parler comme ça. Et puis maintenant, ici, on dit, voilà, Hachem dit, c'est moi qui ai dit aux Égyptiens que le peuple, vous savez, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzraïm, ils sont sortis en principe pour 3 jours. Bon, ils ont dit, on va partir 3 jours servir Hachem. Et quand ben, ils ont dépassé, au bout de 3 jours, ils se sont éloignés, puis ils ont continué de s'éloigner. Donc, l'information, elle est arrivée chez Paro, Baraham, le peuple s'enfuit. Jusque-là, ils n'étaient pas enfuis, puisque ils sont allés là où ils voulaient, lui, il voulait pas qu'ils y aillent. Mais bon, tant qu'ils sont encore dans les 3 jours, ils sont encore dans ce qu'ils avaient dit. Mais maintenant qu'ils sortent de la distance qu'on peut franchir en 3 jours, ils continuent. Donc ils sont boréaux, ils s'enfuient. Et donc, on a raconté à Paro. Alors Hachem dit, c'est moi qui racontais à Paro. Igadti, c'est moi qui racontais à Paro. Pourquoi? Je voulais qu'ils vous poursuivent. Igalti, j'ai raconté moi à Paro. Kedeshe afin que les Égyptiens entendent, vire de fou acharechem, ils vous poursuivent, veyitbeu bayam, et qu'ils se noient dans la mer. C'est quoi le passouk sur lequel le Midrash se fonde pour dire cela? Dans le verset, c'est marqué vayogad. Le Melech Mitzrayim qui barach ha'am. Il a été raconté au roi d'Égypte que le peuple s'est enfui. Il a été raconté, le Midrash dit que ça veut dire il a été raconté. On aurait dû dire, c'est sûr que Paro avait envoyé des gens pour suivre, quand les gens sont sortis d'Égypte, il a envoyé des espions, des gens pour voir ce qu'ils faisaient, quoi, quelque part. Surtout si. C'est vrai que d'après le Midrash, Moshe Rabbeinu a obligé Paro à signer un décret comme quoi les Bnei Israël n'étaient plus ses esclaves. Mais bon, c'est plus des esclaves, mais si on peut les récupérer, c'est pas parce qu'on a signé qu'ils étaient plus des esclaves que je peux pas les récupérer quand même. Et donc il a suivi pour voir ce qui se passait. Peut-être aussi pour avoir une information, parce qu'il se passait quand même quelque chose d'absolument énorme, si vous voulez. Tout un peuple est en train de sortir d'Égypte. Alors, personne n'est jamais sorti d'Égypte. Il y a un peuple qui sort d'Égypte. Donc, en tout cas, Paro, il a envoyé certainement des gens. Mais Hachem dit, c'est pas eux qui sont à le raconter, c'est moi. Mais même si c'est les gens qui m'ont raconté, moi, je voulais que l'information arrive chez Paro. Je voulais qu'ils vous poursuivent. Alors, il fallait qu'ils aient, de nouveau, il fallait qu'ils aient du courage pour poursuivre les Bnei Israël. Parce que jusqu'alors, ils en avaient quand même pris plein la figure. D'accord? Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. C'est-à-dire, toute la structure de l'Égypte n'existe plus. Alors, il a encore une armée, mais je sais pas combien il y a dans cette armée. Ça, il y a du monde. Mais il n'y a sûrement pas, justement, les premiers-nés de tous ces gens-là, ceux qui devaient être la génération qui va prendre le pouvoir après lui. Bon, ces gens-là, ils n'existent plus. Ils n'existent pas. Hein. Les premiers-nés ne sont plus là. Donc, il a fallu que lui ait du courage. Je pense qu'Hachem lui a donné du courage pour qu'il ose poursuivre les Bnei Israël. pour suivre l'Ibn Israël, pour qu'Hachem sauve l'Ibn Israël et noie les Égyptiens. On peut se demander pourquoi ça? L'Ibn Israël est sorti d'Égypte. Si Hachem ne lui donne pas du courage, il ne va pas les poursuivre. Ok, l'Ibn Israël va continuer. Quel est le problème? Ils vont pas être devant la mer, éventuellement ce sera contournable, ou bien bon, il va fendre la mer, mais on n'a pas besoin de. Il faut que toute l'armée égyptienne soit détruite. Ça, finalement, que cette armée soit détruite, dans la mesure où cette armée ne les poursuit pas, on ne voit pas la nécessité de détruire l'armée égyptienne. Hachem a voulu effectivement régler le problème, l'Égypte terminée comme l'Égypte grande puissance, etc. En tout cas maintenant, c'est terminé. Elle va redevenir une puissance, etc. Mais à cette époque-là, il y a une défaite gigantesque, tout un peuple qui s'en va et il peut rien faire. Mais non, Hachem a voulu aller jusqu'au bout. Il faut que la fine fleur de l'armée égyptienne meurent. Donc les premiers-nés sont morts, la garde rapprochée de Paro, les soldats proches de Paro sont au fond de la mer. Paro est le seul survivant pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Pour qu'Hachem, j'ai sauvé Oshia. J'ai sauvé les Bnei Israël. On a noyé les Égyptiens. Et alors, Shamu Amim Irgazun. Les peuples ont entendu et ils ont été bouleversés, en fait. Si c'est la Lachon Rogez qu'il faut dire ici, ils étaient en colère, etc. De ne pouvoir rien faire, probablement. Ve'en bachem zar. Et là, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire, il n'y avait aucun étranger qui a vécu ce que vous avez vécu à Matan Torah. Même le grand converti, quoi, celui. Yitro vient, lui aussi vient après les Midrash. Vous êtes mes témoins, parole d'Hachem, et moi je suis Dieu. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de la même manière que moi, dit Hachem, j'ai personne d'étranger, c'est moi tout seul. Vous, clan Israël, vous êtes aussi tout seul, il n'y a pas d'étranger. C'est Hachem, il n'y a pas de père, pas de frère, pas de fils, c'est-à-dire, il est seul. Le clan Israël aussi, à Matan Torah, il est aussi seul, aucun étranger. Aucun étranger, c'est-à-dire comment ça se mesure être étranger, c'est on est étranger si on n'a pas participé à l'esclavage. Si on n'a pas été esclave en même temps que les Bnei Israël, et c'est ce qui est dit ici, c'est que pendant que les Bnei Israël souffraient, Yitro, il était tranquille chez lui, dans sa maison. Et par conséquent, il ne peut pas participer à Simchat Torah, quoi, quelque part, au don de la Torah. Il peut pas. Il n'a pas le droit, en fait. Il n'est pas qualifié pour ça. Donc là, on voit aussi, là, tout de suite, cette idée que Matan Torah, ça n'est possible. Bon, c'est réservé à ceux qui ont participer au galut, à l'exil. Alors, du coup, les Révraves, alors, les Révraves, ils ont eu le temps de se convertir. Bon, ils se sont convertis, là, c'est pas clair non plus, mais s'ils sont sortis et que tout le monde s'est converti au moment du Sinaï, ben, eux aussi, ils se sont convertis au moment du Sinaï, avec tout le monde. Avant le Sinaï, juste avant le Sinaï, il y a eu, on voit les corbanotes avec que Moshe Rabbeinu a envoyé les jeunes gens, c'est-à-dire les prorotes, faire des corbanotes, parce que des corbanotes pour les guérim, normalement. Et la mila, ils l'avaient faite, donc il faut dire que les révraves, ils ont dû faire la mila aussi. Parce qu'on ne peut pas faire de conversion s'il n'y a pas eu de mila. Or, eux, a priori, ils n'ont pas participé au Korban Pessah. Ils sont pas. Les Révraves, ils sont là au moment où ils sortent vraiment, mais ils sont pas là juste avant. Comme on l'a dit, d'après avec vous, qu'on a vu l'enseignement de Rabbi Yitzhak Koutner, je sais pas avec vous. Rabbi Yitzhak Koutner, il faisait remarquer que la sortie d'Égypte a lieu en deux temps. Il y a eu la Géoula. La Géoula, c'est à minuit. À minuit, les Bnei Israël sont libres. Hachem est intervenu, les prorotes sont morts, et Paro, il a décidé, voilà, maintenant vous partez. Et Moshe Rabbeinu nous dit, non, non, on partira que le matin. Donc la Yetsia, elle a eu lieu le matin. C'est-à-dire, on a été libre depuis minuit, mais on est sorti d'Égypte que le matin. Alors il dit, quel est l'inventaire, enfin, qu'est-ce que ça change? Ça change que le Erev Rav, okay. Ils ne sont sortis, ils ne sont venus qu'avec la sortie. Ils n'étaient pas là à la Géoula à minuit. Quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, eux aussi ils sortent. Alors du coup, il faut imaginer, d'après ce Midrash-là, à quelque part ils ont dû faire la Mila. Je ne sais pas quand. Mais pour se convertir, il fallait faire la Mila. Les autres avaient fait la Mila au moment du Korban Pessah. Mais eux, le Erev Rav. Alors encore une fois, ça dépend si on pouvait dire ce que j'ai raconté sur le Révrav, que en fait c'est les Bnei Israël, alors ça serait déjà plus facile. Parce que leur conversion ici, ce serait seulement d'avoir. Ils étaient Bnei Israël et probablement qu'ils ont dû faire la Mila comme tout le monde, même s'ils n'étaient pas prêts vraiment à sortir, etc. Ils ont fait probablement la Mila. Et à ce moment-là, bon, il n'y avait que le reste à faire comme tout le monde. Ils ont pu se convertir comme tout le monde. Ils étaient déjà. Donc là, on a affaire à une définition. C'est toujours cette idée que ce qui se passe avec le clan Israël, ça doit refléter ce qui se passe au niveau d'Hachem. La solitude absolue d'Hachem, au sens pas de père, pas de, etc. Ça se reflète dans la solitude du clan Israël. Seuls sont acceptés à Matan Torah ceux qui ont participé au galout, ceux qui ont souffert, ceux qui se sont qualifiés avec le mortier et les briques, quoi. C'est ça probablement l'unité de ce morceau de Midrash entre cette solitude d'Hachem et la solitude du clan Israël. Vav. Alors là, il faut que je change de page. Machal le Maner Bassar Vadam, Shenichnas Lamdina. Le roi, il entre dans son pays. Mechabdim Mota. Alors, comme le roi arrive, alors on donne du kavod à Lamdina en réalité, c'est-à-dire on la fait toute belle. Marbitsi Mota, ומעטרים אותה, מפרישים פיתאות וכלים נאים ומדליקים נרות. On embellit la ville, toutes sortes de décorations et on allume des lumières. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani Einiken. Moi, ça ne se passe pas comme ça pour moi. Elani Nichnasi Beolami. Parasti Kitaot. Shenema Hanote Kadok Shamaim. הדלקתי נרות שנאמר ויאמר אלוקים יהי מאורות, ריבצתי מים שנאמר יקבעו המים, התרתי כל מה שעשיתי שנאמר ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. איזה השם די איסי, ידיע וריטה מואה. Par opposition à ce qui se passe quand un roi arrive dans la grande ville, alors on va parer la ville, on va décorer, on va allumer des lumières, etc. Ce qu'Hachem me dit, moi, je suis arrivé dans le monde, c'est-à-dire j'ai créé le monde, et c'est moi qui ai tout fait. C'est-à-dire je me suis fait moi-même mon kavod, quoi. Je ne suis pas arrivé dans un monde qui m'a recueilli, qui m'a accueilli en manifestant sa joie en quelque sorte de me reconnaître. Mais là, moi, j'ai fait tout le job. C'est moi qui mets la lumière, c'est moi qui fait qu'il y a de l'eau, etc. Tout. Moi, j'ai fabriqué moi-même. Même la notion de kavod qu'on donne normalement à un roi quand il arrive quelque part, moi, on n'a pas donné de kavod. Mais ce n'est pas au sens où je regrette qu'on ne m'ait pas donné de kavod. Je n'ai pas besoin de kavod. On ne peut pas me donner le kavod. C'est moi qui donne les éléments avec lesquels on pourrait éventuellement me donner du kavod, mais c'est moi qui les ai donnés. Par exemple, quand Hachem va dire qu'on va allumer des nérotes à l'intérieur du Mishkan, Midrash rapporte que Hachem dit, c'est pas du tout que j'ai besoin de votre lumière, mais c'est comme, c'est toujours, je vais vous donner l'occasion de faire quelque chose pour moi, pour que vous soyez pas en trop grande dette par rapport à moi. Moi, je vous fais les choses, alors faites aussi quelque chose pour moi. Ah, est-ce que vous faites pour moi, vous ne le faites que parce que je vous donne tous les éléments pour le faire? Ok, mais on va considérer que vous avez fait quelque chose comme ça. On est dans cette situation à peu près comme les enfants, d'accord, qui vont acheter des cadeaux, comme on a déjà souvent dit, vont acheter des cadeaux à la maman pour l'anniversaire de la maman, et c'est la maman qui va et qui achète, etc. Et l'enfant, ensuite, il donne comme si. Voilà. Hachem, c'est la même chose. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ensuite on lui donne. Pour nous donner l'impression de ne pas être que débiteur, mais d'apparaître comme si on était partenaire, qu'on était capable de lui donner quoi que ce soit. Donc là, on voit que Hachem est en train de, le Midrash, il est en train de travailler toujours sur ce Anochi Hachem Elokecha. Tout ça, c'est dans la première phrase, première partie de la première phrase de Aseret Hadibrot, n'est-ce pas? N'oubliez pas. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a vu jusqu'à présent, où Hachem dit « ne vous trompez pas », c'est-à-dire « j'apparais comme Elokecha », comme une pluralité de divinités, etc. Et d'une certaine manière, j'apparais comme je veux apparaître comme votre roi, mais alors, vous allez m'accepter comme roi, mais c'est moi qui fais tout. Quelque part, n'oubliez pas, Elokecha, je suis votre Dieu, mais c'est moi qui vous fais jouer le rôle du peuple. Vous êtes, je suis votre Dieu, ça veut dire, c'est moi qui, je m'occupe complètement de vous. Et je vous fais jouer un rôle particulier. Vous êtes le peuple dont je suis le Dieu, en fait. Anochi Hashem Elokecha. Je suis le Dieu de ce peuple, c'est-à-dire, j'ai fait en sorte que vous aussi, vous avez une relation privilégiée. Il n'y a pas d'étranger. Quand je vous parle, il y a une espèce de révélation. Tout le monde va savoir qu'il y a eu la révélation. Mais personne n'y était, en dehors d'Ibn Israël. Personne n'est là aussi pour voir la révolution, pour participer. Hachem ne leur parle pas aux autres. Je vous parle à vous, il n'y a pas d'étranger qui entend ce que je vous parle à vous seulement. Donc c'est ça, Elokecha. Je suis ton Dieu. Et même ce qu'on fait normalement pour un roi, vous ne pouvez pas le faire et c'est moi qui le fais moi-même. Je me le fais à moi. C'est moi qui embellis le monde dans lequel j'apparais. C'est moi qui ai arrangé la lumière et l'eau et etc. Zayin. Anochi Hashem Elokecha. Melech Basar Vadam. Encore une fois, peut-être. Pourquoi est-ce qu'on a passé par un machal? Ici, est-ce que c'est un machal? Pourquoi on annonce ici machal le Melech Basar Vadam? Hachem voulait dire, vous, c'est pas comme moi, non, c'est pas un machal. Pourquoi il fallait dire que c'est un machal? En quoi est-ce qu'on a affaire ici à un machal? C'est un machal dans la mesure où, normalement, quand un roi arrive, il arrive dans un endroit où il est reçu avec, où les gens ont fait des efforts pour le recevoir. On a embelli la ville, etc., pour le recevoir. Hachem dit tout de suite, mais moi pas, moi c'est pas comme ça. Alors, moi c'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de dire que c'est un machin dans ce cas-là. Un roi, on fait comme ça. Moi, c'est pas comme ça. Si tu dis, moi, c'est pas comme ça, c'est plus un machal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train ce sur quoi on est en train de mettre l'accent, c'est que ce qui existe, c'est un Meler. La Malchoute, ça existe. Mais ce que moi je fais, ça ne se fait pas pour un roi. C'est en ça que je suis Elokecha. Je suis ton Dieu, je suis pas ton roi. Et point, c'est tout. Je fonctionne aussi comme roi, mais je suis au-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment ton Dieu. Même les rois, quand Paro, qui est un roi et qui se prend pour Dieu, ou quand les empereurs romains se divinisent, etc. Bon, ils sont jamais que des rois. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils font comme s'ils étaient des divinités. Bon. Mais moi, je suis vraiment une divinité. Anochi Elokecha, je suis Elokecha. Et donc le machal, c'est une façon de dire, c'est pas, on pourrait presque dire comme dans les premiers paragraphes là, c'est pas parce que je me manifeste comme votre roi que vous êtes en droit de penser que je ne suis qu'un roi. Je suis Elokecha. C'est ça c'est pour ça qu'on passe par un machal, parce que on voudrait dire qu'Hachem est roi, mais Hachem n'est pas roi, il est Dieu, il est une divinité, il n'est pas du tout un roi. Parce qu'un roi, effectivement, il y a un peuple qui donne quelque chose au roi. Et moi, c'est moi qui donne tout. Bon, c'est-à-dire, c'est vrai que j'ai demandé qu'on me reconnaisse comme Melech Haolam, etc. Mais toujours cette idée, c'est toujours, j'ai l'impression, disons, que toute cette première phrase, jusqu'à tout ce qu'on a fait, c'était toujours pour dire, on devrait toujours dire, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'il y a plusieurs voix, pas parce qu'il y a plusieurs images, vous pouvez en déduire qu'il y a plusieurs divinités. Et ensuite, ne vous trompez pas, c'est pas parce que je me manifeste, je vous demande de me recevoir, de me reconnaître comme votre roi, que vous pouvez en déduire que je ne suis que roi. Je suis Dieu. Même si, alors, on me traite un peu comme un roi, mais n'oubliez pas que je suis le roi auquel le peuple ne peut rien donner, et que c'est au contraire moi qui donne au peuple. Si vous voulez, dans les rois de droit divin, enfin, que ce soit les tsars ou Louis XIV, etc., les gens faisaient comme si les choses dépendaient d'eux. Ils arrivent à aller guérir les écrouelles, je veux dire, on leur demande de guérir, etc. Évidemment, ils ne peuvent rien faire. Mais quelque part, comme ils veulent se dire de droit divin, c'est-à-dire que la royauté, elle leur vient d'en haut, quoi. Imagine. Donc, quelque part, alors, ils sont rien d'autre que des rois, c'est tout. Mais justement, y a dans le fait, à la fois dans le fait d'être Elohim, avec l'ambiguïté du pluriel, dans le fait d'être roi, avec l'ambiguïté de qu'on pourrait penser qu'il n'est que roi. Donc c'est une suite de définitions en disant ce qu'Hachem n'est pas, quoi. Je ne suis pas une divinité parmi d'autres. Je ne suis pas un roi comme les autres. On va voir de ce coup il va aller dans cette direction-là. Mais il me semble que c'est ça le sens de ces premiers mots de la première phrase. Menerbasar vadam, bonnet palatine. Un roi de chair et de sang, il construit un palais. Shema yachol le aziz oto mimkomo. Est-ce que son palais, il peut le déplacer, son gré? Ani Eniken, Enika. Moi, c'est pas comme ça. Shenema, Ani Asiti, Vani Essa, j'ai fait, je porterai, je ferai. Vani Esbol, Vamalet. Et moi, je vais supprimer, je vais supporter, je vais sauver, je vais, etc. Ani Asiti, Shenema, Vayas Hashem Elokim, l'Adam ou l'Ishto. Moi, je fais. Je crée les gens. Vani et ça, Vaikar Hashem Elohim et Adam. Sur le Vani et ça, Vaikar Hashem Elohim et Adam, il a pris l'homme. Il l'a mis d'abord dans le Gan Eden, puis après il l'a fait sortir du Gan Eden, etc. D'abord, Ani Asiti, Kinichamti Ki Asitim, c'est marqué dans le Passouk, j'ai regretté de ce que j'ai fait. Vani Essa le Noach. Mais par contre, je vais sauver Noach, je vais l'élever. Shenemar, Vaisgor Hashem Bado. Hashem a fermé les portes de l'arche sur Noach pour que ça soit qu'il soit sauvé, quoi, pour que ça. Donc, Vani Esbol, Shenemar, Vayered Hashem Lirot et Taïr, Vetamigdal. Mais moi, je vais supporter, mais je vais aller regarder. Moi, je vais aller voir ce qui se passait au moment de la construction de Migdal Babel. Vamalet, l'Avram, je vais sauver, je vais faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Shenemar, Vayomer Hashem Elav. Ani Hashem Asher Oseticha Me'ur Kasdim. Hashem se présente à Avraham Avinu en disant, c'est moi qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim, c'est moi qui t'ai sorti de la fournaise dans laquelle Nimrod t'avait jeté. C'est intéressant ici, en passant. Abraham. Abraham aussi, il a été sauvé, il a été sorti de, c'était pas de l'Égypte, mais sorti de la fournaise. Donc, quelque part, Abraham, bon, c'est sûr que il s'est retrouvé dans la fournaise, il a accepté d'être jeté dans la fournaise par Nimrod. Bon. Du coup, la relation avec Hachem, elle va se construire, quoi. Grâce au fait qu'il a fait quelque chose, Abraham, et qu'il a été sauvé par Hachem, quelque part. Donc ça, c'est une lecture de Essa, Vaamalet, d'Abraham, Vayomer Hachem Elav, Ani Hachem, Asher, c'est moi qui ai fait Israël. Chez Neymar, où il t'a fabriqué, quoi, il t'a instauré, installé. Vani Essa, Shenema, va Essa et Tremalkanfe Nsharim, porté sur les ailes de l'aigle. Ani Esbol, va Egel, et j'ai supporté, en fait, le Egel. Va Malet, j'ai sauvé. Shenema, va Yomer Hashem, Salartikid Varecha. C'est-à-dire, voilà jusqu'où il est allé. C'est-à-dire, non seulement je peux tout faire, quelque part. Mais même quand on s'est révolté contre moi, j'ai fabriqué l'homme et la femme, et ensuite on fautait. Et la génération, dans la génération, je n'ai pas détruit complètement le monde. J'ai sauvé le monde avec Noah. Abraham aussi, je l'ai sauvé de la fournaise. J'ai fait le clan Israël. Et ce clan Israël, j'ai supporté, je le porte. Porter le clan Israël sur les ailes de l'aigle. Mais j'ai supporté le veau d'or. Et les gens, normalement,
aurait dû être anéanti par le veau d'or, aurait dû, comme je l'ai dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire ce peuple, commence avec toi, un nouveau peuple. Et finalement, j'ai dit, Salarti, Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé, ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Bon, pourquoi est-ce qu'il commence par cette idée de du palais? Le palais a à voir avec la suite. Le fait que le palais soit déplaçable, c'est-à-dire en vérité le Mishkan, il est déplaçable, c'est-à-dire ma résidence, voilà, on peut, c'est déplaçable. C'est mon palais, mais il a, en d'autres termes, je construis un palais, mais je ne suis pas lié par l'endroit où j'ai construit le palais. Construire le palais, mais mon palais, il est là où je voudrais que le Bnei Israël se trouve, il y aura mon palais. Donc, à la limite, j'ai l'impression que il dit que de la même manière que mon palais, je l'ai, je peux le mettre où je veux, bien pour les hommes, ce sera la même chose aussi. Les hommes, voilà. Je peux à la fois les sanctionner et aussi les sauver. Et je peux les sauver, même si en fait, eux, ils font des choses qui mériteraient qu'elles disparaissent complètement. En fait, c'est intéressant, le passage qui parle de l'homme et de la femme. Vayas Elohim, Hashem Elohim, le Adam ou le Ishto. En fait, c'est le début d'un verset qui n'est pas cité entièrement. Le Adam ou le Ishto, ce qu'il a fait, c'est Kutnotor. C'est Hashem a fait à Adam et Chava, après leur faute, c'est lui qui leur a fait des vêtements de peau. Ça, le Midrash, il cite pas la totalité du verset, mais le Adam ou le Ishto, c'est le début du verset qui parle de Kutnot Or. C'est-à-dire que, après que l'homme et la femme aient fauté, je leur fais quand même des vêtements. Non seulement je les détruis pas, mais je me mets à leur service, je me mets. C'est-à-dire non seulement je suis roi, mais je suis un roi au service des hommes. Les hommes fautent, et au lieu de les sanctionner, je leur fais une tova, je leur construis des vêtements. La génération de Noach, une faute, au lieu de les détruire complètement, je sauve quand même Noach. Abraham, bon, il est jeté dans la fournaise par Nimrod, c'est-à-dire que voilà, il avait une idée, mais bon, il n'est pas capable de l'imposer, il a pas, Nimrod est plus fort que lui. Jette dans la fournaise. C'est-à-dire qu'en fait, ce Nimrod, il a détruit Abraham. Enfin, il pensait le détruire en le jetant dans la fournaise. C'est moi qui l'ai sorti. Je t'ai sorti de la fournaise. Alors, là, pour Adam et Chava, et pour la génération de Noé, etc., ils s'étaient mal conduits. Hachem vient leur faire une fleur quand même. Mais chez Abraham, où est la fleur? Je veux dire, il l'a sauvée. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quelque part, Abraham, dans cette génération-là, normalement, il n'aurait pas pu se développer. Parce qu'il y a un Nimrod qui le jette dans la fournaise. Un homme tout seul, il ne peut pas. Même si lui, il est à la recherche d'Hachem et il va trouver ou il a trouvé quelque chose, mais ça ne tient pas la route. Il ne peut pas s'opposer à un Nimrod. Ce n'est pas possible. Hachem dit, ben, OK. Je vais valider ta démarche, je vais t'aider à faire quelque chose qu'évidemment tu ne peux pas faire tout seul. Je vais te sortir de là-bas et je vais t'aider à être un peuple, etc. Et quand les Bnei Israël font le veau d'or, même chose. Ils font le veau d'or, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il leur pardonne. C'est-à-dire que ils l'ont fait une infidélité majeure et ils leur pardonnent. Salarti kidvarecha. C'est pas moi qui ai décidé. Tout cas, ils ne le présentent pas comme ça. C'est pas qui, moi, j'ai décidé ma propre initiative de leur pardonner. Salarti kidvarecha. Tu m'as demandé de pardonner, j'ai pardonné. Il y a un midrash qui dit que quand mon cher Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a demandé à Hachem d'entrer en Eretz Israël. Hachem lui a dit, écoute, il y a eu un moment où il y avait un problème. On n'était pas d'accord. Moi, je voulais détruire le clan d'Israël et toi, tu ne voulais pas. Salarti kidvarecha. J'ai fait ce que toi, tu voulais. Maintenant, toi, tu veux entrer en Eretz Israël et moi, je ne veux pas. Maintenant, on va faire ce que moi, je veux. Mais si tu veux, on refait l'histoire et on change. C'est-à-dire, je détruis le clan d'Israël, commence un peuple avec toi, à ce moment-là, tu pourras entrer en Eretz Israël. On voit très bien ici que c'est le Midrash qui présente la chose comme, OK, une fois c'est toi qui gagne, une fois c'est moi qui gagne. Mais tu ne peux pas gagner les deux fois. Mais si tu veux, c'est libre. Donc, c'est comme si Hachem disait, ben, finalement, on va faire comme tu veux. Mais c'est comme tu veux. Ou bien tu commences par gagner et moi je gagne à la fin. Ou bien c'est moi qui gagne au début. Et donc du coup tu peux gagner à la fin. Mais tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux. Donc Hachem accepte en fait. Une fois toi, une fois moi. Ça veut dire quoi? Même Moshe Rabbeinu a la même hauteur que lui, quoi. Moi je veux un truc et toi tu ne veux pas. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. 50-50. C'est-à-dire, c'est fou. Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu. Mais dans cette relation où je suis ton Dieu, tu es mon peuple et je t'écoute. J'écoute. C'est un truc qui se fait à deux. Être ton Dieu. Ou que tu sois mon peuple. Si vous faites ça, alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Là, c'est pas marqué, Machal, au début. D'abord, Acher. Meler Bassar Vadam, Yotze, la Amira. Yotze Yechidi, Nilcham Yotzim Imo Ribe Revavot. Quand il sort en guerre, il est tout seul. Shenemar Hashem Ish Milchama. À lui tout seul, il est à la guerre. Ukshe la tête Torah de Sinaï. Yatsuimo. Les Bnei Israël sont sortis avec lui, en fait. Rivevrevot, des myriades de myriades. Shenemar, Rechev Elokim, Ribotaim, Alfe Shinan. On a déjà vu ce passouk plus haut. Les 22 000, là. Cette fois-ci, c'est appliqué. C'est appliqué à des anges ici. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Un roi, quand il parle tout seul. Quand il fait la guerre, alors il est entouré de myriades. Akadosh-Baroukh, c'est exactement le contraire. Quand il fait la guerre, il a fait la guerre tout seul. Et quand il veut parler, c'est-à-dire il va donner la Torah au Sinaï, alors il y a 22 000 qui sortent avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Et dans une situation de paix ou tranquille, alors le roi peut parler tout seul, il n'a pas besoin d'être aidé en quelque sorte. Et quand il va faire la guerre, il n'est pas capable de faire la guerre tout seul, le roi. Et Hachem, c'est le contraire. La guerre, il l'a fait tout seul. Hachem, Ish Milchama, comme Moshe Rabbeinu a dit au clan d'Israël, Hachem, Ilachem Lachem, Vatem Taharishun. Hachem va faire la guerre pour vous, et vous, taisez-vous. Arrêtez de prier, etc. Taisez-vous. Passage de la mer. Donc ici, dans les situations dangereuses, si on peut parler comme ça, un roi de chair et de sang, il a besoin d'être entouré de gens qui le protègent, quoi. Hachem, dans une situation dangereuse, il n'y a pas de danger. Et quand il vient donner la Torah, alors là, du coup, il y a tous les fameux panim, les 22 panim, etc., dont on a parlé au numéro, je sais pas, 3 ou 4, qui viennent avec lui, qui descendent avec lui au Sinaï. Et quand lui va parler, alors il y a aussi des anges autour qui l'entourent, il est entouré. Là, il y a plein de monde, quelque part. Mais c'est pas du tout la protection, c'est sa gloire. C'est-à-dire que les gens qui l'entourent, c'est la gloire divine, en fait. Et c'est aussi une façon, de ce qu'on a vu plus haut, c'est une façon de se présenter, comme il va parler aux gens, alors les gens ont besoin d'entendre chacun une parole qui lui convient. Donc Hachem, il va se faire entourer par, les panim, là, qui sont ces fameux anges, qui sont des fameux visages qu'ont eu les Bnei Israël. Chacun recevait la parole d'Hachem comme si elle lui était directement adressée, comme quand ils avaient un. Ça arrive quand quelqu'un qui, par exemple, fait un chiour de. Pas un chiour de moussard, s'il est bien fait, etc., on a l'impression qu'il nous parle à nous, quoi. Chacun entend que, voilà. Il est en train de me parler à moi, alors qu'il est en train de parler de la généralité. Là, c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Chacun a entendu quelque chose qui lui correspondait. Même les Neshamot, comme on a vu, ont entendu des choses qui leur correspondaient particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'entourage du roi, dans un roi de chair et de sang, c'est pour le protéger. L'entourage d'Hachem, c'est pour aller en direction des auditeurs, en fait, pour se rendre accessible aux auditeurs, pour que chacun puisse entendre effectivement que ça soit Elokecha, ce travail-là d'être mon Dieu. Chacun pourra dire, c'est mon Dieu. J'ai entendu mon Dieu me parler. Donc ça veut dire, l'entourage, c'est exactement le contraire. Pour le roi de chair et de sang, c'est une protection. Hachem n'a pas besoin de protection. L'entourage, il est là pour se rendre audible au maximum à chaque personne. Le roi, il raconte ce qu'il veut, il est tout seul, il parle, comprenne qui pourra, qui voudra, etc. Il n'y a pas d'effort, il n'a pas les moyens, en fait, de parler à chacun. Ça va toujours dans ce sens. Là aussi, je fais les choses pour vous, mais ne vous trompez pas. C'est toujours Hachem ou Echad complet, même si il se montre de plusieurs manières. Davar acher anochi Hachem Elokecha, adaou dirtiv, arieh sha'ag, milo yira. Le lion rugit qui n'aurait pas peur. Zéhoudirtim, c'est ce qu'écrit chez Yirmiya, Miloiracha Melechagoïm. Qui ne te craindrait pas, roi des peuples, qu'il chayata. Parce que, en fait, c'est normal, en fait. Cette crainte-là, elle convient à toi. Tu es le seul qui mérite vraiment d'être craint. Amrouan vihim le Yirmiyahu, Maraita lomar melech hagoyim. Les autres prophètes, souvent c'était les faux prophètes qui étaient à l'époque de Yirmiya, qui ont fait beaucoup de mal à Yirmiya. Ils lui ont dit, pourquoi tu dis qu'il était roi des peuples? Kolan viim korim oto melech Israël. Tous les autres prophètes, quand ils parlent d'Hachem, ils disent qu'il est roi d'Hachem, roi d'Israël. Et toi, tu l'appelles le roi des goïms? C'est eux qui sont les faux prophètes. Il l'accuse, lui, de pas vraiment religieux, hein, je l'appelle. Amar Lahem, Shamati Mimenu. J'ai entendu d'Hachem lui-même. Hachem a dit, Navi la goyim et taticha. Hachem lui a dit, je t'ai donné comme prophète pour les peuples. Vani amarti melech hagoyim lomar im al banav ve al bnei beto lo chas al acherim u chas, que je voulais dire sheneimar nora elokim mimigdashecha. C'est-à-dire Si, bon, on est à l'époque de la destruction du premier temple, hein. Donc, Yirmiyahu, ce qu'il disait, si Hachem n'a pas pitié en quelque sorte de son peuple, est-ce qu'il va avoir pitié des autres, des goyim? Évidemment, il n'aura pas pitié des goyim. Shenemar Nora Elohim, Imigdashecha. Il est terrible, redoutable, Elohim, Imigdashecha, de sa Kdusha, en fait, de son, pour ce, sa Kdusha est terrible, en particulier pour l'Ebné Israël, mais aussi pour les autres peuples. Milo Iraacha Melechagoim, qui ne te craindrait pas, roi des peuples, Milo Itiare Mimcha, qui ne sera pas effrayé par toi. Machal, le Danestos, chez Mile kiso zeuvim, vaya omed v'tzoveach, mishum vakesh yavo v'yishal. On parle, c'est un, je sais pas qu'est-ce qu'il est, c'est un dignitaire qui a les poches pleines d'argent, de l'or, et qui dit, écrit, tout celui qui veut qu'il vienne et qu'il demande. Mais les gens entendaient ça et ils s'enfuyaient. L'omar, que chez Yavoli, paramimi, chez Lava, miyuchalamot. Parce qu'évidemment, si on vient demander, c'est un prêt. Mais quand il va venir exiger son prêt, avec des intérêts, etc., il va falloir payer. Donc les gens, ils s'enfuyaient. Kadosh Baruch Hu est descendu sur le Sinaï pour donner les 10 paroles. Mitmotet. Pour que le monde ne tremble pas. Eres Ra'asha. La terre a tremblé. Afshamayim. Les cieux aussi, ils ont complètement fondu. Harim Nazlou, Hachem. Les montagnes ont fondu devant Hachem. Nitfou, ça veut dire les cieux en goutte à goutte. Shamaim, marqué dans Iov, que les piliers du ciel sont mis à trembler, c'est plus sûr. Israël, Martitin, Shenema, Israël, marqué à leur sujet, Vayecherad, Kol Ha'am, le peuple a tremblé. Vehar, Meratet, la montagne aussi a tremblé. Shenema, Vayecherad, Kol Ha'am, Meod, toute la montagne a énormément tremblé. Kol elu lama, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout tremble de cette manière-là? Elle a mitne chez Diber, Dibrot shel Chaim. Parce qu'il a parlé des paroles de vie. Ve'anavid soveach, et le prophète Amos, il crie, Arye sha'ag mi lo ira, quand le lion rugit, qui n'aurait pas peur? Amar Yirmiyah, Uma im bishah sheu noten chayim laolam. Si déjà, au moment où il donne la vie au monde, Eres Racha, la terre tremble, que chez Yavol ifroa min arshaim shavu al divrei Torah. Alors quand il viendra faire payer les rechaim qui ont transgressé les paroles de Torah, Alachat kama ve kama, plus forte raison. C'est marqué, l'ifne zaamo, devant sa colère, mi yaamod, qui va pouvoir se tenir, ou mi mechalkel et yom bo'o, qui va pouvoir vivre le jour qui vient, que chez ratsui, en biria yirchola laamod bekocho, que chez kam, mecharon apo, mi yomar lefanav. quand il est en bon terme avec le clan d'Israël, quand il agrée, on peut déjà pas supporter. Ça rayonne tellement fort. Et quand il se met en colère, donc, qui est-ce qui va pouvoir tenir? C'est ça que Yirmiya veut dire. Qui ne te craindrait pas, roi du peuple? Qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est parti sur un pas, sur le passouk avec lequel on a terminé, le passouk d'Amos. Il dit Arié Shahag, Milo Ira. Quand le lion rugit, qui est-ce qui n'aura pas peur? Ce que dit Amos de cette manière-là, Yirmiya le dit d'une autre manière, lui dit, Milo Iraha Melech Hagoim, il n'aura pas peur de toi, roi des peuples, en fait. Effectivement, c'est ce qui doit se passer en fait. D'inspirer la crainte, c'est vraiment quelque chose qui te va vraiment bien. C'est-à-dire, il n'y a qu'à toi que cette crainte, cette inspiration de la crainte, va bien. Parce que si quelqu'un d'autre fait peur aux autres, si A fait peur à BCD, etc., finalement, d'une minute à l'autre, il va mourir le A, et donc la peur qu'on avait, elle peut s'en aller. Donc il y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Par contre, si HM, dire qu'on a la crainte par rapport à HM, ça c'est réel. Et ça a lieu d'être. La crainte, d'inspirer la crainte, le seul qui devrait pouvoir inspirer la crainte, c'est HM. Ça lui convient bien. Alors bon, il y a ce que les prophètes disent. Donc on parle ici de la crainte inspirée par Hachem. Pour l'instant, on n'a pas comparé expressément à la crainte d'un roi, en fait. Mais là aussi, vous voyez, ce que Yirmiya dit, il parle d'Hachem en tant que roi, en tant que Melech. Pas en tant que Navi, pas en tant que Eloka, que divinité. D'accord? Melech Hagoïm. Parce qu'il n'est pas le Elohé Hagoïm en vérité. Parce qu'il n'a pas voulu, il est l'Elohim des Egoïm, on a vu, ça s'impose, mais il leur a pas parlé en privé, etc., comme il a fait pour le peuple d'Israël. Mais il est le roi. Et il est le roi aussi, il est Melech HaGoïm. Si on utilise la différence entre Melech et Moshel, il n'est pas Melech HaGoïm, les Goïm ne l'acceptent pas. Il est Moshe le Bagoïm, mais il ne mêle que d'Israël. Et peut-être que comme c'est comme ça, peut-être qu'il faut entendre ce que disent les Neviim, ce que lui disent les prophètes. Tous les prophètes parlent seulement de Melech Israël parce que seul Israël accepte Hachem comme roi. Seul les Goïms, ils l'acceptent comme tyran, c'est-à-dire ils l'acceptent pas. Pour eux, il est un tyran. Mais pourquoi il dit Melech Agoïm? Donc, il faut qu'on comprenne exactement ce que ça peut vouloir dire Melech Agoïm. Bon, il dit, c'est Melech Agoïm avec la Yira, avec la crainte, en fait. Moi, ce que je voulais dire, dit Yirmiya, c'est que si Hachem n'a pas pitié de son peuple, enfin de ses enfants, alors évidemment, il ne va pas avoir pitié des autres. C'est marqué Nora Elohim Mimigdashera. Alors tout à coup, maintenant, on a glissé là. Nora Elohim Mimigdashera. Ce n'est pas Nora. Meler, terrible, Hachem. À partir de son Migdash, à partir de sa sainteté, en fait. Milo iraacha melech agoyim, milo itiare mimcha. Il ne sera pas complètement, on dit, plein de, empli de crainte par toi. Pourquoi? Parce que il apporte maintenant cet exemple de celui qui vient, qui dit, celui qui veut emprunter, il n'a qu'à venir demander. Mais tout le monde s'enfuit. Parce qu'un jour, il faudra rembourser. Et avec ce bonhomme-là, quand il viendra exiger le remboursement, ça va aller mal. Donc, tout le monde a peur. Maintenant, il va parler, il veut parler de quoi? Il veut parler du Yom Hadin, effectivement, parler de la fin des temps, où il faudra donner des comptes. Quand il dit Melech HaGoyim, parce qu'à ce moment-là, à la fin des temps, les Goyim, ils le reconnaîtront comme Melech. Qu'est-ce qu'on se passe à la fin des temps? La fin des temps, jusqu'alors, il aura été Moshel. À la fin des temps, qu'est-ce que c'est là? Yom Ahou Yehi Hashem Echad, et tout le monde le reconnaîtra comme tel. Pour tout le monde, il sera à ce moment-là le Melech. On va s'arrêter là, on reprendra ce morceau-là. Merci Hashem, à la prochaine.
Merci, Rav.
À la prochaine.
Merci.
On ne doit pas faire une intercalation.